Bien, merci à vous tous d'être si nombreux ce soir pour accueillir Michel Delpech pour parler d'un livre un peu inattendu venant de Michel Delpech au départ. On évoquait tout à l'heure quelques souvenirs des années 60 avec Laurette, c'était bien, c'était chouette. Dont on reparlera d'ailleurs tout à l'heure. C'est un très joli livre de témoignages, et quand on dit un témoignage bouleversant, je crois, c'est vrai que c'est un témoignage qui touche. Néanmoins, moi je voudrais quand même demander à Michel Delpech, qu'on connaît bien, parce qu'il a été une grande vedette du yéyé au départ, et qu'il est encore aujourd'hui même une vedette. Vous chantez encore un peu de quelques galas,
même beaucoup.
Hein, même beaucoup, hein, même beaucoup. Voilà, pourquoi tout d'un coup ce besoin de parler de sa foi? Parce que quand on m'a donné ce livre et qu'à la maison ici on m'a demandé d'animer cette séance, je me suis dit, tiens, il a dû écrire ce livre, il a dû découvrir la foi à travers un drame, une maladie, comme je sais qu'il a été malade et qu'il en parlera lui-même tout à l'heure, une dépression, que sais-je, etc. Et bien non, pas du tout, c'est beaucoup plus ancien que ça, et cette foi, vous l'avez en vous depuis très 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 longtemps. Et on imagine difficilement comment on peut vivre cette foi en même temps menant une carrière d'artiste de variété telle que vous l'avez menée dans les années 60, 70.
Alors, si on n'a pas beaucoup de foi, on a plutôt une croyance, moi je dirais plutôt que je suis sûr de ce que je crois, la foi c'est quand même encore autre chose. D'abord, je vais vous préciser que vous entendez certainement que j'ai un petit défaut d'élocution qui n'est pas encore parti, c'est la suite des remèdes qu'on m'a prescrits pour une célèbre maladie qui est le cancer et que j'ai traversé maintenant, mais il me reste cette petite séquelle qui, j'espère, va disparaître. Donc je suis navré, je ne pourrais peut-être pas parler très longtemps à chaque fois, parce que la gorge est desséchée, voilà, je ne vais pas vous en faire plus, mais pardonnez-moi ce petit empêtement. Alors je disais donc, oui, moi je parle plutôt de croyance, parce que la foi, c'est quelque chose qui nous anime, c'est quelque chose qui est à la fois intellectuel, mais qui est surtout qui vient du ventre et du cœur. Et ça, moi, je suis un homme de peu de foi. C'est-à-dire que je crois fermement en l'existence de Dieu. J'aime Jésus-Christ et je pense qu'il est le Fils de Dieu. Mais malheureusement, ma foi est faible. Bon, les vrais grands disciples du Christ ont également traversé des périodes comme ça, puisque Saint-Pierre a failli se noyer quand il a voulu marcher sur les eaux parce qu'il manquait de foi. Et ben moi, je suis un petit peu comme ça. Voilà. Alors, quelle était la deuxième question?
Non, la question, c'était pourquoi ce besoin aujourd'hui de communiquer, de parler, oui, de faire coming out, si vous voulez, de parler aujourd'hui, alors qu'on vous a suivi pendant tellement longtemps au cours de votre carrière, sans se douter que vous étiez en même temps porté par cette croyance.
Oui, alors je vais peut-être vous faire une réponse qui va vous décevoir. J'ai écrit avant celui-là un autre petit livre qui est sorti il y a 2 ans, où j'évoquais cette question. Mais je n'approfondissais pas du tout, c'était juste signalé et ça avait pris 2 pages à tout casser. Et lorsque j'ai promotionné ce livre, plus que je ne promotionne celui-là d'ailleurs, quand j'ai promotionné ce livre, on m'a dit que la partie la plus intéressante de cette autobiographie était la question de la spiritualité. C'était ça qui était le plus intriguant et qui donnait aux gens envie d'en savoir plus. Alors, Plon a fait une collection qui s'appelle « Chemin faisant », dans laquelle les invités, les célébrités qui ont fait ça, racontent leur vie intérieure, comment ils conçoivent les choses, etc. Donc ce petit livre s'inscrit dans cette collection Chemin faisant chez Plon et après de la Renaissance. Voilà. Donc c'est parce qu'on m'avait dit ça et parce que mon éditrice elle-même me disait que ce serait bien qu'on pioche un peu et que tu fasses quelque chose exclusivement consacré à ce sujet. Alors c'est ce que j'ai fait, on ne parle pas du tout de mes chansons dans ce livre, non. De mes amours, il n'y a rien du tout.
cette croyance et cette communion avec Dieu d'abord, puis après on verra comment vous découvrez Jésus finalement sur les lieux. Sur les lieux mêmes. Mais elle est très très ancienne. C'est vraiment c'est l'enfance qui vous a...
Non, l'enfance, j'étais... C'est difficile de dire un enfant et croyant. Mais disons qu'on le dit comme ça. Je crois que j'étais très impressionné par les églises. D'ailleurs, j'avais pensé, quand j'étais enfant, j'avais pensé à devenir prêtre. C'est quelque chose qui m'attirait beaucoup. Mais c'était un ressenti, mais il n'y avait pas du tout de connaissance. Je n'étais pas avec des parents qui étaient croyants et pratiquants, donc je ne savais rien de rien. Ce que je savais, c'est que quand je me trouvais dans une église, j'étais frappé, j'étais concentré immédiatement, et j'oubliais le reste du monde quand j'étais enfant. Puis ensuite, il y a eu toute l'adolescence et le moment où j'ai commencé à chanter en 1964, oui, 50 ans déjà. Et cette période était entièrement consacrée à la musique, à la chanson et à tout ce qu'il y a, à la périphérie, tout ça. Et il a fallu que j'attende l'âge de 33 ou 34 ans pour revenir à ces choses. Et donc on peut dire que ça s'est structuré, que ça a commencé vraiment à la fin des années 70.
Alors, vous dites aussi quelque part, au tout début, vous dites « J'étais un jeune adolescent craintif, j'avais peur ».
Oui,
peur de tout. Et alors, est-ce que c'était une façon aussi de vous rassurer, quelque part, de trouver un appui, de trouver un...
Peut-être, mais c'est ce qu'on dit toujours, les gens se réfugient, on dit qu'ils se réfugient dans la foi et dans l'Église et toutes ces choses. Moi, je ne pense pas que ce soit un refuge, je pense que c'est très exigeant et qu'on ne peut pas être fervent un chrétien ou autre chose d'ailleurs, musulman, juif, peu importe la croyance, tout le monde regarde vers Dieu, chacun a sa manière de le faire. Voilà, mais...
Non, j'étais en train de dire que je vous demandais si vous vous êtes appuyé sur cette croyance, sur cette foi, pour gommer vos craintes.
Mais très certainement, il y a une part de ça, mais ça ne se limite pas à ça. Ça serait une foi et une croyance sans grande densité, je pense. Mais je ne dis pas que ma croyance et ma foi sont des choses qui envahissent la Terre, le monde. Mais enfin... Voilà, ce n'est pas une partie de plaisir. Enfin, c'est pas quelque chose d'innocent. C'est pas fait pour les gens faibles finalement. Je parle de l'Évangile là. Si on veut un tant soit peu suivre les préceptes qui sont indiqués, eh ben faut s'accrocher. C'est quelque chose qui est dur, qui provoque des conflits intérieurs, des craintes, d'autres angoisses. C'est pas facile du tout. Donc moi, je ne pense pas que je me suis réfugié dans l'Église. Par contre, lorsque j'ai connu une très grave crise dans les années 70-80, je me réfugiais, et là, c'est vraiment, on peut le dire en toute conscience, je me réfugiais dans les Églises. Ce qui n'est pas la même chose que de se réfugier dans l'Église ou dans la foi.
Alors, vous dites aussi quelque part, finalement, quand j'étais chanteur, je me prenais un peu pour Dieu.
Mais un chanteur, ça se prend pour Dieu. Quand il est sur la scène, il faut qu'il se prenne pour Dieu.
Oui.
Ça passe vite, hein, on est vite remis à sa place. Mais
Quand on descend,
on descend très vite et on s'aperçoit qu'on avait rêvé. Hein,
et alors, quand j'ai un spectacle réussi, quand je ressors un disque dans les années, je ne sais plus combien, d'El Pechenko, etc. Vous allez très loin parce que vous dites, finalement, le succès, c'est à lui que je le dois. Si c'est réussi, c'est à lui oui. À lui que je le dois.
Oui, une chose qui me paraît tout à fait normale de penser, c'est que ce qu'on fait de bien, il faut pas se l'attribuer, parce qu'on ne peut faire quelque chose de bien qu'avec, d'une certaine façon, la grâce de Dieu. Par contre, tout ce qu'on fait de mal, on peut se le revendiquer.
Ah oui, c'est ça.
Moi
alors,
qui l'ai fait.
C'est aussi simple que ça. Tout ce qui est bien, c'est grâce à lui. Et tout ce qui est mal, il y est pour rien.
Non, 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 c'est pas ça que
c'est
je dis.
C'est incroyable.
Je dis ce que je faisais de bien ou ce que je faisais de mal. Mais il n'y a pas une chose en noir et blanc, c'est-à-dire, voilà, ce que je fais de mal, c'est moi, ce que je fais de bien, c'est lui. Ça ne peut pas se résumer à
c'est pas aussi simple
élan
ça.
On appelle ça...
C'est pas aussi simpliste que ça. Alors, je voudrais que vous nous racontiez aussi, on va pas tout raconter parce que c'est quand même très long, un cheminement de 40 ans, 50 ans.
Oui, oui.
Mais votre rencontre en 1980 avec un moine bénédictin. Oui, parce que vous avez quand même un peu cherché, un peu hésité. Vous avez été voir du côté du bouddhisme, de l'hindouisme.
Fait, oui.
En plus, ça correspondait bien à cette période hippie des années 70, si j'ai bien compris. Il y avait aussi ça un peu quand même.
Le choix du bouddhisme, le bouddhisme, j'ai lu quelques ouvrages, mais je n'ai jamais cherché à avoir une pratique bouddhiste. J'ai eu pendant un certain temps un maître indien, donc, qui était un grand spécialiste du Vedanta, qui est une des parties de la religion assez complexe pour nous de l'hindouisme. Voilà, puis ensuite, je suis revenu au christianisme, à ma façon, parce que je ne suis pas quelqu'un de véritablement pratiquant au sens où on l'entend habituellement. Je ne vais que très peu assister à des offices, je le fais quelquefois, mais... Alors moi, je me suis marié à l'église copte la deuxième fois. Première fois, je me suis marié dans une grande église Saint-Sulpice, j'avais 19 ans, et je ne savais pas très bien ce que je faisais. Ça s'est donc évidemment pas très bien terminé. Puis la deuxième fois, c'est quand même plus mûr. Et je me suis marié étrangement, alors que je n'avais pas choisi, dans la petite crypte qui est en dessous de la grande église Saint-Sulpice où j'avais fait mon premier mariage. Donc pour moi, c'est un signe formidable parce que c'était une humble chapelle. Mon premier mariage qui a foiré était dans un des hauts lieux du christianisme à Paris, du catholicisme. Et puis ensuite, la deuxième fois, c'était plus modeste. Et ça m'a bien plu. D'autant plus que c'est le hasard, si tant est que le hasard existe vraiment, qui m'a fait aller là.
Alors, on ne découvre pas... On ne découvre pas la foi, ou enfin, ce qu'on peut appeler la foi ou la croyance, tout seul. Donc, ce sont des rencontres, souvent. Donc, 1980, j'y reviens, la rencontre d'un moine bénédictin à l'abbaye de Saint-Vendré.
Oui. C'est un type qui était passé à la télévision. J'avais vu son émission, et il y avait des moines qui étaient interrogés sur leur état d'esprit, comment ils vivaient leur foi, leur enfermement dans une abbaye, etc. Et il y avait ce type qui s'appelait Frère Redon, il s'appelait d'ailleurs pas comme ça dans la vie, bien sûr, mais, et qui racontait ce qu'il vivait, et ça m'a beaucoup parlé, parce qu'il n'hésitait pas, dans son interview, à parler des femmes, des difficultés, du fait de ne pas avoir de sexualité avec une femme, ça lui posait beaucoup de problèmes, la nourriture, les choses, enfin c'était un type qui aimait les choses de la vie, les choses ordinaires de la vie. Et évidemment, ça m'a donné une autre image des moines que je voyais comme des personnages très compassés, très austères, alors que j'ai vu que finalement, ils se bagarraient avec eux-mêmes et qu'ils pouvaient avoir des pensées que je ne soupçonnais pas. Donc, je lui ai envoyé un courrier lui demandant si je pouvais venir le voir pour qu'on en parle un peu. Puis je suis allé et je suis resté la première fois, je crois, 4 ou 5 jours. Et j'ai beaucoup sympathisé avec lui. C'est grâce à lui que j'ai eu mes premières lectures qui ont permis de revenir à mon origine, c'est-à-dire... tout simplement au christianisme. Il m'a fait une liste d'ouvrages que j'ai toujours, d'ailleurs, et toujours gardé, avec quelques petites feuilles dans lesquelles il avait annoté des choses. Et je lui dois beaucoup. Et alors, après, je suis revenu une deuxième ou une troisième fois, et j'ai appelé il y a quelques années pour savoir... Tout ça se passait début 80. J'ai appelé il y a 3 ou 4 ans à l'abbaye Saint-Mandry où je l'avais rencontré, et on m'a dit qu'il n'y était plus. Alors ça m'a... à la fois étonné parce que c'était un type qui n'était pas quelqu'un de léger qui s'était engagé comme ça pour rien. Il tenait malgré les difficultés à rester là et à finir sa vie dans ce monastère et vraiment à y arriver. Et puis je pense qu'il a dû finalement craquer à un moment, ce que je comprends aussi d'ailleurs, et j'ai plus de nouvelles.
Là, à Saint-Vendry, vous avez croisé sans oser l'approcher.
Oh oui,
l'abbé Pierre, qui habitait à Saint-Vendry. Moi, je l'ai connu, j'ai fait une émission de La Marche du siècle avec lui et Pierre Bourdieu à Saint-Vendry. Ah,
bien.
Et, oui, donc, et vous ne l'avez pas approché?
D'abord, il y a une table, vous savez, pour les invités dans les abbayes, dans les monastères. Il y a évidemment les moines qui sont tout autour, comme ça. Et il y a la table des invités ou des retraitants. Et donc, moi, chaque jour, je m'asseyais à cette table, on était 7 ou 8. Et il y avait un vieux monsieur tout comme ça, qui venait à la dernière minute s'asseoir avec une canne et tout ça. Et il n'était pas du tout charismatique à ce moment-là, parce qu'il ne tranchait pas dans le paysage. Quand il était à Paris ou à la télévision, où il s'était battu pour l'hiver 54, c'était vraiment une figure exceptionnelle, mais dans le contexte d'un monastère, on pouvait très bien passer à côté. C'est au bout de quelques jours qu'on m'a dit « c'est l'abbé Pierre ». Et là, il était tellement en prière, je le sentais dans son monde, que je n'ai pas voulu lui déranger.
Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable. J'ai un tout petit peu joue chatouillé comme ça. Oui, parce que le diable, d'abord, on verra tout à l'heure s'il existe ou pas. On en parlera, mais bon, on verra. Mais parce que vous dites, j'ai appris à reconnaître Dieu à sa seule douceur, ses manifestations aux grâces qu'il nous accorde toujours, tout le temps. Dans ce monde de brutes, n'a-t-il pas créé les fleurs, les papillons, la musique, la beauté, les hommes, les femmes, les oiseaux ? Quand je les regarde, je rends grâce. C'est pas un petit peu, ça n'a pas un petit côté bisounours quand même ?
Ah, peut-être, je sais pas. Hein ? Je m'en fous complètement.
Oui. Non, vous vous sentez bien, là. C'est... Ah, et vous vous rendez grâce à lui parce que c'est lui qui a fait.
C'est peut-être un peu bon. Bisounours, mais ça ne me gêne pas.
Donc, vous ne pensez pas un instant que votre cancer, c'est peut-être lui aussi, après tout ?
Non.
Et que les souffrances de la Terre, les massacres, les morts d'enfants, le Rwanda, tout ça, les génocides, ce n'est pas lui ?
Non, ce n'est pas lui.
Alors, c'est qui ? Il fait quoi, lui, alors ?
Ben peut-être, je le demande s'il fait quelque chose. Mais il l'a fait, il l'a fait. Il l'a fait en son temps. Mais je ne sais pas si Dieu agit. C'est d'ailleurs une question qui m'agite. Je ne sais pas s'il agit. Je crois aux anges, moi aussi. Je crois aux anges. Ah, ça fait bisounours à fond, non ?
Non, non.
Ah bon ?
Non.
Alors je me lançais. Je crois aux anges qui, peut-être, eux, interviennent en notre faveur. Car il est certain que quelqu'un intervient. Moi, je l'ai ressenti vraiment très profondément. C'était pas... Puis je ne suis jamais...
Il y a des intercesseurs.
Je ne suis jamais tombé en extase à la première expérience mystique. J'ai cherché à savoir ce que ça voulait dire, ce que c'était, si c'était du bidon, si c'était moi qui l'inventais. Et je ne peux pas dire que j'en ai eu 36 000 non plus, mais parfois, j'ai eu la très nette impression que j'avais une aide céleste. Alors, qu'est-ce que c'est ? Bon, je ne sais pas, mais c'est sûr. Sinon, je pense... Évidemment, on voit toutes les horreurs du monde. Il y a toujours quelque chose qui m'en vient à l'esprit qui paraît contradictoire avec les paroles du Christ, qui disent « Là où vous serez deux ou trois, je serai parmi vous. » Je crois que c'est un peu, cette phrase, un peu de choses près. Et je me souviens d'une petite fille, vous avez dû voir ça aussi, dans je ne sais quel pays, qui s'était enlisée dans des sables mouvants, et la terre entière priait pour elle. Et on pouvait, elle était toute charmante, toute belle, toute merveilleuse dans sa détresse. Et on pouvait penser, enfin, il aurait été normal qu'à la suite de toutes ces prières faites pour elle, aussi bien dans les églises qu'un simple passant, que j'avais, tout le monde voulait sa délivrance. Malgré tout, elle est décédée, elle était engloutie. Ça pose question. Mais. Finalement, c'est un moment où voilà, mais c'est pas possible, il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien du tout. Et puis après, quand on y pense vraiment, quand on y repense, eh bien, on reprend Dieu en pleine face. Moi, c'est comme ça que je vis les choses. Je n'ai plus strictement rien. On peut me dire n'importe quoi, que ce Dieu est cruel, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela. C'est la seule certitude que j'ai, celle de son existence.
Alors vous dites à un moment, on va avancer, mais c'est parce que j'ai évoqué votre cancer, que vous évoquiez d'ailleurs vous-même tout à l'heure, et vous dites quelque part, je n'étais pas dans un état où je pouvais être en rapport direct avec Dieu comme je l'étais autrefois, etc., et ça m'a manqué. Dieu m'a manqué.
Ben oui, oui, parce que je cherchais la connexion, si on peut employer ce mot. Mais il faut une certaine énergie pour se mettre en présence de Dieu et ressentir sa présence. Il faut être en pleine forme. Et donc, pendant ces moments où j'étais à l'hosto, je cherchais à m'agripper à lui, mais à chaque fois, je manquais de force. Mais c'est pas grave, je savais qu'il était là, mais je ne pouvais pas ressentir son aide.
Alors, Dieu... Et puis un jour, vous découvrez Jésus.
Oui, ce qui n'est pas très loin.
Ce qui n'est pas très loin, je suis d'accord. Mais comment se fait la filiation, enfin, dans votre croyance ? Vous avez une révélation quand même à Jérusalem.
Je ne sais pas si on peut appeler ça une révélation. C'est de retrouvailles, en fait. C'est comme ça que je l'ai vécu. C'est-à-dire, je n'ai pas été foudroyé par un éclair.
Mais d'habitude, c'est pas Jésus qui vous fait découvrir Dieu normalement dans le.
Bah si,
dans le chemin normal.
Dieu que par le Fils, oui. Dans le chemin catholique, chrétien, selon la doctrine.
Il me semble bien,
oui. Oui. Mais c'est tout à fait juste d'ailleurs. Mais on peut très bien croire en Dieu sans croire en Jésus. On peut aussi ne pas y croire et avoir une vie sublime intérieure, bien plus importante qu'un croyant bigot et grenouille de bénitier.
Alors racontez-nous Jérusalem.
Alors à Jérusalem, donc j'ai fait un voyage. Mon voyage de noces, la deuxième fois, était on a choisi Jérusalem. Et donc on est tombé sur un guide absolument formidable, qui est très érudit, et qui nous a fait faire un peu le grand chemin parcouru par Jésus, visiter Nazareth, Jéricho, etc. Et puis on a, en point d'orgue à la fin, on est allé au lieu dit le Golgotha, qui d'ailleurs ne se trouve pas, d'après les dernières révélations, à l'endroit où on l'a toujours placé. Et il y a le tombeau du Christ dans une église, il y a donc le Saint-Sépulcre. Et bon, ça faisait partie de mon voyage un peu initiatique, mais je ne m'attendais à rien de précis. Vous savez, là-bas, la place est gardée par des orthodoxes grecs qui sont assez durs et assez... sont des types un peu brutaux, d'ailleurs ils se foutent sur la gueule d'ailleurs, à la première occasion avec les autres prêtres. Et puis donc on est pressé parce que c'est quand même une file qui a quelques secondes pour aller dans la crypte elle-même et ressortir. Et moi je m'attendais à rien de précis, mais lorsque je suis entré dans cet endroit très exigu, il y avait la pierre censée avoir été le socle sur lequel Jésus avait été enseveli, eh bien, d'un seul coup, je me suis mis à genoux quelques instants, et j'ai retrouvé Jésus. J'étais sûr qu'il était là. Je ne voyais pas son visage, bien sûr, mais sa présence était vraiment tangible. Et ce sont des retrouvailles. C'était extrêmement doux. Et c'est pour ça que je dis souvent, quand on a une grâce divine, ça m'est arrivé... Quelquefois, c'est peut-être un peu orgueilleux de le dire, mais c'est vrai, ça arrive quelquefois. Eh bien, c'est très doux. Enfin, pour moi en tout cas, ce sont toujours des choses souriantes. Ce Jésus qui venait à ma rencontre, finalement, c'est moi qui étais venu à sa rencontre, mais disons qu'on a tous les deux fait un pas.
L'un vers l'autre.
Et c'était très doux. Il n'y avait pas de mystique là-dedans. Il n'y avait pas de... Et il n'y avait rien de dramatique ou d'extraordinaire. C'était simplement un frère qui m'était redonné. Quoi.
Et alors vous dites d'ailleurs, à un moment dans le livre, que vous êtes retourné à Jérusalem.
Ah oui, je suis retourné quelques années.
Et que vous n'avez jamais retrouvé cette sensation.
Non, j'ai voulu montrer à mon fils qui m'accompagnait... où j'avais le parcours que j'avais fait. Et puis, je suis donc retourné au Saint-Sépulcre où il ne s'est strictement rien passé. Donc, évidemment, on se pose la question, on se dit, bon, alors si finalement cette fois-ci je n'ai rien eu, est-ce que je n'ai pas rêvé la première fois? Mais enfin, on n'en sort plus, quoi, si on commence à trop réfléchir.
Alors, il y a un troisième personnage, c'est le Saint-Esprit.
Ah oui?
Alors, lui aussi, vous l'avez découvert, rencontré.
Alors, le Saint-Esprit, bon, faut assimiler le concept de la Trinité.
Voilà.
Est-ce que le Saint-Esprit,
c'est marrant, ouais,
procède
Dieu, Jésus, Saint-Esprit.
Et du Père, ouais. Les trois sont Dieu.
Et qu'est-ce qu'il vous apporte, le Saint-Esprit?
Il m'apporte quand je suis dans une bonne...
Il est un intercesseur?
Non, je ne le vois pas comme ça. Il n'y a pas d'intercesseur entre les trois. Si, peut-être Jésus avec le Père.
Ouais.
Le Saint-Esprit nous donne, comme son nom l'indique, l'Esprit. C'est-à-dire... Quand je suis bien disposé et dans ma vie, quand je n'ai pas trop de mal à faire un peu de bien, je me dis que je suis à ce moment-là animé par le Saint-Esprit. Mais je dois dire que je ne... Bon, à part le fait de faire le signe de la croix où il est présent, je pense que très peu au Saint-Esprit.
Vous pensez beaucoup, parce que vous lisez et vous avez beaucoup lu les évangiles, les épîtres. Là, les apôtres ont un rôle prépondérant, important dans votre croyance, dans votre foi.
Oui, oui.
Et notamment Augustin, François...
Ah oui, mais lui, c'est pas un
Paul.
Apôtres.
Non.
Oui.
Non, c'est la lettre, les épîtres, ça.
Oui, oui. Paul, beaucoup d'importance, enfin, tous les personnages, évidemment, me touchent. J'aime beaucoup Saint Paul, même avec tout ce qu'on peut dire de lui. C'est vrai qu'il y a des lectures qui peuvent... Il y a certaines choses, ces écrits, qui peuvent être interprétées comme de la
misogynie.
Voilà.
Ouais.
Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'il faut se dire compte de l'époque à laquelle ça s'est passé, des traditions dans lesquelles tout ça s'inscrivait. Je ne le vois pas comme ça. D'ailleurs, quand il dit femme, parce que la grande phrase que détestent les femmes, c'est quand Paul dit que les femmes doivent se taire et être avec une sorte de voile pour cacher leurs cheveux, etc. Bon, d'abord, c'est vraiment une époque et un climat. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il dit, il parle aux hommes après, il dit aux hommes d'aimer leurs femmes comme l'Église. Alors, s'il était franchement misogyne, je ne pense pas qu'il aurait demandé aux hommes d'aimer leurs femmes comme Jésus aime l'Église. C'est purement et simplement spirituel, donc il n'y a pas de misogynie à mon goût. Enfin, je ne pense pas que puisse être interprété comme ça.
Enfin, il a bien organisé les choses, Saint-Paul.
Hein. C'était son job.
Vous le mettez quelque part, d'ailleurs, en disant qu'il a mis un peu dedans dans tout ce bordel.
Oui,
c'était
oui.
Vraiment le directeur du marketing, le DRH. Hein.
Il y a eu une énergie merveilleuse, parce que comme il était frappé, et qu'il a découvert le milieu vraiment d'une façon foudroyante, comme on peut le découvrir, des gens comme Claudel ou Clavier, il a eu autant d'énergie qu'il avait été passé par cette... C'est ce coup de poignard, quoi.
Alors, vous dites plusieurs fois d'ailleurs dans le livre, je suis plus chrétien que catholique.
Oui, parce que je ne peux pas me définir comme catholique ou orthodoxe. Je connais les deux églises dans lesquelles je me suis marié, que j'ai fréquenté comme ça à l'occasion. Mais je ne peux pas me considérer... Je suis catholique de naissance, et il y a beaucoup de choses dans la liturgie catholique, et même dans l'histoire des saints catholiques, etc. Beaucoup de choses qui me plaisent, qui m'impressionnent. Mais je ne peux pas me dire, voilà, je suis catholique. Je suis chrétien, et je vois toutes les églises... je mets toutes les églises au même niveau. Elles se passent leur temps à... Enfin, plus maintenant, mais de grandes chamailleries entre les uns et les autres. Mais moi, je...
Encore un peu, quand même. Hein.
Il y en a encore un petit peu, toujours. Bien sûr, il y a des rivalités. Je me souviens d'être allé à l'église grecque. Bon, moi, je me suis converti à l'église... l'église égyptienne, copte,
hein,
orthodoxe. Et un jour, j'ai téléphoné à l'église grecque de Paris pour leur demander quelle était la liturgie et tout ça. Et j'ai signalé que j'avais... fréquenté l'église copte orthodoxe. Mais ça a été très mal vu. Et il m'a dit, le type qui m'a répondu au téléphone m'a dit, mais c'est pas des orthodoxes. Il y a eu des histoires de vocabulaire et de virgule entre eux. Et pour très peu de choses, les coptes orthodoxes étaient considérés comme monophysites. C'est-à-dire qu'il y avait une différence entre deux interprétations des choses. Sur la nature humaine et divine du Christ, les Coptes disaient que c'était que c'était divin uniquement et que la dimension d'homme n'est pas obligatoire.
Alors,
et les autres le contraire. Donc ça a créé un schisme.
Par deux fois, au moins dans le livre, vous revenez sur la Vierge Marie.
Oui.
Et alors, on a l'impression que, bon, tout ça, on s'arrange avec tout ça. Avec qu'elle soit vierge, pas vierge.
Mauvais esprit.
Non, j'ai dit avocat du diable.
Pareil.
C'est pareil.
Non, j'aime beaucoup Marie. D'ailleurs, je l'aime de plus en plus, Marie.
Ah.
Ouais. Avec les femmes, c'est souvent comme ça, moi. Il me faut du temps.
Non mais alors on a un petit peu l'impression, parce que bon après on va revenir sur la pratique. Vous avez dit tout à l'heure, je suis assez libre finalement, je ne vais pas beaucoup aux offices.
Oui mais j'en suis pas fier, hein, parce que je pense qu'il faut avoir une discipline.
Ah, je voudrais que vous me racontiez la confession.
Ah ben je ne peux pas vous raconter ma confession.
Non, je ne vous demande pas de vous confesser.
Mon père.
Non, je voudrais que vous me racontiez la fois où vous avez rencontré...
Mais c'est la seule grande confession que
voilà.
J'ai fait dans ma
mais
vie.
C'est ça que je voudrais vous raconter.
Oui, j'étais à la médecine.
Parce que vous n'êtes pas un adepte de la confession, justement.
Non, mais maintenant, depuis qu'elle est psychiatre, c'est vrai que on se confesse moins. Hein.
Oui. Ça coûte plus cher chez le psy. Hein.
Ça coûte un peu plus cher, oui. Oui, alors, j'étais en fait à Saint-Mandry pendant une de ces petites retraites que j'ai fait là-bas. Et il y avait un monsieur que je ne connaissais pas, qui je savais qu'il était évêque. Je crois qu'il était évêque de Nancy. Enfin, dans mon souvenir, c'est Nancy, mais peut-être que je me trompe. Et alors, donc, évidemment, pendant les moments de promenade dans les bois, aux alentours, etc., parce que Bon, les moines ont des récréations et ils ont des moments quand même où ils peuvent se laisser un petit peu aller. Et cet homme-là les suivait et on était ensemble dans ce grand parc qui est celui de l'abbaye de Saint-Mandry. Et puis de façon très naturelle, on a commencé à parler et ça s'est transformé en marchant tous les deux comme ça sur les petits chemins dans la forêt. Ça s'est transformé en une confession absolue. J'ai absolument tout déballé de ce que je pensais être, mon existence, de ce que j'en avais fait, des trucs mauvais que j'avais fait, des trucs bien. Enfin, je lui ai tout dit. Et je n'avais absolument pas l'impression d'une impudeur quelconque. Je savais qu'à travers lui, je faisais quelque chose d'autre, quoi. Je faisais une confession. Voilà. Et c'est la seule fois où je l'ai faite. J'ai jamais refait depuis. Je sais pas, ça s'est passé comme ça, ça devait être comme ça, je sais pas.
Alors, je voudrais qu'on...
Il n'est pas l'air content de ma réponse.
En plus, j'ai lu ça.
C'est pas votre genre.
Comme ça m'avait beaucoup frappé, justement, dans le livre, c'est pourquoi je voulais que vous nous le racontiez. On a l'impression, quand même, que vous êtes un croyant très, très, très libre, quand même, et que vous arrangez avec... les dogmes, avec les règles de l'Église,
oui,
que l'Eucharistie, c'est vraiment pas... ça existe. Mais pour vous, c'est très rare et dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Que le mariage, vous êtes pour... vous ne comprenez pas qu'on puisse se dresser contre le mariage gay, l'homosexualité, l'excommunication des divorcés. Oui. Enfin, vous êtes pour, quand même... une Église assez ouverte et libre.
Oui, tout à fait libre. Il y a des structures dans l'Église, donc la liberté est peut-être un petit peu relative. Non, mais je pense que Dieu est amour, et qu'à partir du moment où il est amour, il ne peut pas exclure. Il ne peut pas... par exemple, dans le catéchisme de l'Église catholique, je pense celui de cette année, mais j'en ai un des années précédentes, on apprend avec stupeur que la peine de mort est une chose possible.
J'allais y venir.
La peine de mort est une chose possible. Comment peut-on être... Enfin, à mon avis, hein, je ne demande qu'à entendre les arguments de l'opposition, mais...
Je vais lire le passage, j'ai 30 secondes pour... voilà. Elle ne peut évidemment pas condamner à mort, et pourtant, le catéchisme de l'Église catholique n'exclut pas quand l'identité et la responsabilité du coupable sont pleinement vérifiées, le recours à la peine de mort, si celle-ci est l'unique moyen praticable pour protéger efficacement de l'injuste agresseur, la vie des êtres humains.
Oui.
Donc, elle explique et elle,
c'est très bien.
Elle admet effectivement la peine de mort.
Elle admet la peine de mort dans certaines circonstances. Alors, la peine de mort, on est pour ou on est contre. On ne peut pas être pour un certain type de délit. Plus loin. Non, c'est une philosophie, ça va plus loin que ça. Ce n'est pas une simple technique. C'est pas une... Il faut être pour ou contre. On ne peut pas être entre les deux. Et je pense que Dieu est amour et qu'il ne peut pas se réjouir qu'il y ait la peine de mort sur cette terre. Ça me semble impensable. Et pourtant, ça a été tout ça travaillé par de hauts esprits. Et malgré tout, des millions et des millions de catholiques doivent adhérer à ça au nom de la discipline.
Puisqu'on parle de jugement et de condamnation, est-ce qu'on peut pardonner tout ?
C'est ce que demande le Seigneur Jésus-Christ, de pardonner tout. On peut... Oui, le moment... Par exemple, on fait beaucoup de mal, on nous a fait beaucoup de mal, et c'est évident que dans un premier temps, on se trouve en révolte et qu'on peut même connaître un peu la haine et vraiment de mauvais sentiments à l'égard de la personne qui nous a blessés. Mais je crois que quand on réalise, quand on sait ce qu'apporte le pardon, on essaie de toutes ses forces d'y arriver, quoi, d'arriver à pardonner. Parce que si on meurt sans avoir pardonné à ceux qui nous ont blessés, c'est pas bon. C'est pas bon. Faut remettre tout en ordre avant de disparaître.
Alors, vous terminez les quelques dernières pages sur qu'est-ce que pourrait être un grand pape. Il aurait toutes les audaces, pourrait faire beaucoup, s'il décidait enfin de dépoussiérer la papauté et de vivre comme un pauvre, comme un pape, s'il décidait en tant que chef de l'Église d'agir comme Gandhi, si d'un seul coup il vendait tout le patrimoine du Vatican, se délestait de Mammon, bousculait tout ce qui s'est amassé pendant des siècles, les trésors et les canons, les statues et les doctrines d'hommes, s'il simplifiait les structures, s'il se délestait des tiars et des papas mobiles pour s'offrir au peuple les pieds nus. Il doit vous plaire beaucoup, le pape François.
Il me plaît bien, oui. Il me plaît bien. Il me plaît à tout le monde, hein, beaucoup, beaucoup, je trouve. Oui, il est très sympa, hein. Vraiment, j'aime bien.
Alors, comment... Bon, on a bien compris que vous étiez effectivement très, très habité par ce que j'appelle cette foi. Vous avez réussi pendant toutes ces années à concilier votre carrière artistique, qui n'est quand même pas un milieu extrêmement croyant.
Non, mais il n'est pas plus mauvais qu'un autre.
Et votre croyance et votre foi.
Oui.
Je n'ai pas dit non plus que c'était un milieu de débauché.
Non, hein. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas systématique. Moi-même, j'étais débauché, je ne vais pas commencer à jeter la pierre. Mais c'est pas infaisable. J'ai essayé de faire les chansons les plus belles possible, et c'est aussi une manière de remercier. Quand on travaille une chanson et que l'inspiration vient, quand on est devant son micro et que d'un seul coup la prise est bonne, il y a quelque chose du domaine de la grâce qui se produit, et donc on n'a pas enfermé le bon Dieu dans un autre studio. Il est là avec nous et on vit avec lui.
Bien, en tout cas, merci à vous tous. Je vous rappelle donc le titre, Michel Delpech. J'ai osé Dieu aux presses de la Renaissance, dans la collection Chemin faisant. Et vraiment, Michel, je vous remercie parce que c'était bien et c'était chouette.